Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Ensemble sur Calade.
Alors bonjour prof Patrick, puisque c'est comme ça qu'on vous appelle. Toutes les semaines, vous nous proposez une rubrique avec une vue sur l'actualité. Et puis, ces dernières semaines, vue plutôt négative, hein, on peut le dire. Alors,
disons qu'à partir du moment où je parle de la crise du Covid-19, on ne peut pas trop crier « Yukaïdi, Yukaïda, la vie est belle », hein, ça c'est clair.
Difficile.
On va continuer sur ce fil un petit peu hein, de la crise du Covid-19 et de ses conséquences. Sachant qu'on parle essentiellement selon une optique économique, on parle de conséquences économiques. Donc oui, dans les deux premières chroniques, on avait vu que la crise actuelle, c'est une des deux crises provoquées par l'activité humaine, et on avait vu que cette crise a eu un impact économique, enfin est en train d'avoir un impact économique dévastateur, puisqu'on peut uniquement comparer ça à la crise des années 30 et aux deux guerres mondiales. Aujourd'hui, ce que je te propose, Mathieu, c'est qu'on voit comment les autorités politiques de tous les pays ont réagi pour éviter ou atténuer l'effondrement économique qui se profilait. Donc, pour ça, les autorités politiques, nos gouvernants hein, de tous les pays, ont bénéficié de l'expérience assez récente de l'année 2009. On était passé par un crack financier terrible en 2008 et il en a résulté une crise économique violente en 2009. À cette époque, les gouvernements de tous les pays occidentaux ont su éviter la grande erreur de 1930, l'erreur qui consistait à ne rien faire. En fait, en appliquant tout bêtement la théorie libérale simplette de l'époque, qui consistait à dire que tôt ou tard, les marchés allaient se rééquilibrer quand les prix seraient suffisamment bas. C'était une vaste connerie et il en a résulté 10 ans de galère et une guerre mondiale. Donc en 2009 et aujourd'hui, même topo, ils n'ont pas fait la même erreur. Donc les gouvernements de tous les pays occidentaux ont adopté en gros la technique du pompier. Le pompier qui vient éteindre un incendie, d'accord ? Quand il vient éteindre un incendie, le pompier ne se dit pas « Oh là là, je veux mettre 12 litres d'eau, mais ça fait beaucoup, je vais peut-être mettre que le 11 litres ». Non, non, il balance la flotte jusqu'à ce que l'incendie soit éteint. Il ne mégote pas sur la quantité d'eau. Et c'est exactement la philosophie de tous les gouvernements dans leur réaction face à cette crise du Covid. Il y a un slogan que je vais dire en français et en anglais, puisque dans les deux cas, il est largement utilisé. En français, c'est « quoi qu'il en coûte ». Et en anglais, c'est « whatever it takes », avec un super accent français. Les Anglais adorent ça. Pour tomber les nanas, il n'y a pas mieux. D'accord ? Alors, je vais quand même te faire un petit rappel pour qu'on remette ça en connexion hein, de ce que j'ai dit la semaine dernière. Quand l'activité se ralentit, j'ai expliqué que les entreprises voient leurs résultats se dégrader, que certaines entreprises licencient, que d'autres font carrément faillite, et que la conséquence de ça, c'est que les États voient les recettes fiscales diminuer. Parce que si les entreprises font faillite, eh bien, elles ne payent plus d'impôts. Si les gens sont au chômage, ils touchent moins de revenus, donc ils payent moins d'impôts sur le revenu. Donc les recettes fiscales des États diminuent au moment même, lors d'une crise, où leurs dépenses augmentent. Leurs dépenses parce qu'il y a plus de chômeurs, parce qu'il faut aider les entreprises en difficulté, etc. Plus de dépenses, moins de recettes, ça fait des déficits qui augmentent très fort en période de crise. Et si tu ajoutes à ça ce que je viens de te dire, c'est-à-dire quoi qu'il en coûte, c'est-à-dire les États qui disent « de toute façon, je balancerai tout l'argent qu'il faut, je ne compterai pas ». Alors là, tu peux comprendre, Mathieu, que les déficits, les dépenses vont être gigantesques et les déficits vont être gigantesques également. On va détailler un petit peu ça, si tu le veux bien. Je vais te donner l'exemple de la France. On va commencer par ce qui nous intéresse, nous, avec quelques chiffres concrets. La France, on a eu tout de suite le gouvernement français qui a dit « je vais prendre en charge tous les salariés qui doivent arrêter leur travail parce qu'ils sont confinés ». Sous la forme du chômage partiel. Au jour d'aujourd'hui, ça représente pas loin de 24 milliards d'euros dépensés. 24 milliards d'euros juste pour le chômage partiel. Ensuite, on a tout un tas d'actions, de participation de l'État pour soutenir les entreprises, c'est 20 milliards d'euros. On a un fonds de soutien aux petites entreprises, aux travailleurs indépendants, aux professions libérales, c'est 7 milliards d'euros. On a quelques annulations de charges sociales pour que les secteurs ne s'écroulent pas, genre hôtellerie, restauration, art et spectacle, tout ça, ça fait 750 millions d'euros. Bref, si tu égrènes tout ça, le total, ça nous fait un total de dépenses supplémentaires de 52 milliards d'euros pour la France, pour gérer ce choc du Covid. À ça, il faut encore ajouter des recettes fiscales en moins, hein, je viens de dire, quand les entreprises arrêtent de fonctionner, il y a moins de recettes fiscales. Et si on ajoute les recettes fiscales perdues, on passe de 52 à 110 milliards d'euros de dépenses, enfin de dépenses ou recettes en moins. C'est pas fini. Il faut encore rajouter la garantie que l'État va apporter auprès des banques. Pourquoi ? Parce que toutes les entreprises étant en situation d'arrêt d'activité, elles ont toute une trésorerie qui s'écroule. Donc elles doivent emprunter aux banques pour soutenir leur trésorerie. Les banques voyant ça peuvent très bien se dire « Oulala, ça sent pas bon cette histoire, lui je lui prête pas d'argent ». Mais l'État est arrivé en disant « Non, non, tu lui prêtes de l'argent et moi je suis caution ». Si l'entreprise ne te rembourse pas, c'est moi qui te rembourserai. Mmh. Et donc, la somme mise sur la table par l'État français, c'est environ 300 milliards d'euros. Alors là, ce n'est pas des dépenses. Ça sera des dépenses si les entreprises ne parviennent pas à rembourser. C'est des dépenses potentielles, on ne sait pas. Donc tout ça, ça paraît des chiffres assez gigantesques. Hein, ça nous impressionne, ça nous fait 110 plus éventuellement 300. Et pourtant, le Sénat fait un rapport, une commission au Sénat fait un rapport fin avril, destiné à comparer l'effort de la France avec l'effort de nos deux voisins les plus proches, c'est-à-dire l'Allemagne d'un côté et le Royaume-Uni de l'autre. Et je vais t'expliquer un peu ça, je vais être un peu plus rapide hein, cette fois-ci. Concernant l'Allemagne, je vais laisser de côté toutes les pertes de recettes. Hein. Je vais uniquement m'intéresser aux dépenses. On a vu que c'est 52 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Et bien l'Allemagne, c'est 160 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Le Royaume-Uni, c'est 92 milliards d'euros de dépenses supplémentaires. Alors, si on compare tout ça, il faut comparer ce qui est comparable. Donc, on va comparer ça en pourcentage du PIB. La France, les 52 milliards d'euros de la France, c'est 2,3% du PIB français. Les 92 milliards d'euros du Royaume-Uni, c'est 3,9% de son PIB. Les 160 milliards d'euros de l'Allemagne, c'est 4,9% de son PIB. Et on voit donc là, tu l'as compris Mathieu, que l'effort français est beaucoup moins lourd, beaucoup moins important que l'effort du Royaume-Uni et l'effort de l'Allemagne.
Alors, comment ça se fait ?
Ouais, bonne question. Si tu te souviens bien, la semaine dernière, j'avais expliqué que le fait que la France, comme les autres pays d'Europe du Sud, soit déjà fortement endettée avant la crise, allait limiter ses marges de manœuvre. D'accord ? Eh bien voilà, elles sont là les marges de manœuvre. La France ne peut se permettre que de balancer 2,3% de son PIB quand le Royaume-Uni décide d'aller jusqu'à 3,9% et l'Allemagne décide d'aller jusqu'à 4,9% de son PIB. Très probablement, hein, on ne va pas tirer des plans sur la comète, mais très probablement, grâce à ça, les Allemands et les Anglais vont pouvoir redémarrer économiquement de façon beaucoup plus rapide et forte à la sortie de cette crise du Covid-19 que la France. D'accord ? Donc, voilà où on en est. Alors, on continue un petit peu notre raisonnement. Hein. Quand, Mathieu, tu as des dépenses qui sont supérieures à tes revenus, tu fais quoi pour payer les dépenses en question ?
Je coupe tout. J'appelle ma banque.
Ouais, alors tu coupes tout. Sur le plan économique, ce n'est pas une bonne solution parce que ça va aggraver encore la crise. Donc, tu ne coupes pas tout. Tu appelles ta banque parce que tu vas lui emprunter de l'argent. Ouais. Voilà. C'est toujours mieux que d'aller piquer le sac de la vieille d'en face. Tu as raison, c'est bien. Tu vas emprunter de l'argent. Eh bien, les pays de l'Union européenne, s'ils font pareil, ils vont emprunter de l'argent. À qui ils vont emprunter de l'argent, tiens, Mathieu, à ton avis ?
Eh bien, d'autres pays, aux banques ?
Non. Presque, oui et non, les banques. Au marché financier, donc il y a aussi des banques derrière, hein, d'accord ? Mais ils vont emprunter auprès des marchés financiers. Et la question, c'est à quel taux ils empruntent ? Est-ce qu'ils empruntent à un taux élevé ? Est-ce qu'ils empruntent à un taux faible ? Bon, là, c'est pareil que les banques. Hein. Si la banque n'a pas confiance en toi, ils vont te demander un taux d'intérêt très élevé. Si la banque a plutôt confiance en toi, ils vont te demander un taux d'intérêt faible. C'est ce qui est arrivé en 2010 pour les pays d'Europe du Sud qui ne suscitaient pas une grosse confiance hein, dans cette période-là aux marchés financiers. Et là, les marchés financiers avaient demandé des taux d'intérêt très élevés. Le problème, c'est que des taux d'intérêt très élevés, ça étouffe littéralement le pays en question, surtout si c'est un pays d'Europe du Sud qui est déjà très endetté. Et ça peut le mettre en situation de crise extrêmement grave. D'accord ? Revenons à la France. La France, son niveau d'endettement avant le déclenchement de la crise représente 100% de son PIB. Il faut savoir que c'est énorme ça. Hein. Normalement, la limite maximale qu'on doit respecter quand on fait partie de la zone euro, c'est 60% du PIB de niveau d'endettement, pas plus. Ouais. La France est à 100%. Avec cette crise, on va faire un nouveau bond en avant. On va passer de 100% du PIB à 115% d'un coup d'un seul. D'accord ? Donc, il faut s'attendre à, bah évidemment, hein, que derrière les remboursements des intérêts, sans parler du remboursement des emprunts, soient extrêmement lourds et pèsent extrêmement lourd sur le budget de l'État et donc sur les Français. Alors voilà, j'en ai un petit peu terminé pour aujourd'hui, Mathieu. Donc, en gros, on a des dépenses très fortes pour soutenir et relancer l'activité. On a un endettement de la France qui va exploser. Mais il y a encore deux acteurs dont je n'ai pas parlé. Et c'est des acteurs qui ont un rôle très important à jouer dans cette crise. C'est d'un côté l'Union européenne et de l'autre côté la Banque Centrale Européenne. Et ce que je te propose, c'est qu'on intègre ces deux acteurs dans notre réflexion la semaine prochaine.
Eh bien, avec grand plaisir. En tout cas, c'est passionnant de comprendre ce qui se passe derrière les chiffres qu'on entend par-ci, par-là, à la radio, à la télévision, ouais. Comprendre ce qui se passe exactement. Merci beaucoup, prof Patrick.
À ta disposition. Bonne fin de journée, Mathieu. Bonne fin de journée à tous les auditeurs.
À vous aussi, à la semaine prochaine. Au revoir.
Vous écoutez le meilleur de
Ensemble sur Calade.